Eh bien, bonsoir à tous. Bonsoir, bonjour encore, il fait encore jour. Le jour se prolonge. Heureux de passer ce petit moment donc avec vous pour vous introduire ce deuxième chapitre de l'encyclique Dilecticnos. Voilà, c'est un parcours marathon là, que vous faites si vous parcourez donc l'encyclique en trois jours à peine. Peut-être que vous êtes déjà même... Et ça pourrait l'être un peu quand même fatigué avec tout ce que vous avez reçu depuis hier soir. Eh bien, ce que je vous propose, c'est en découvrant ce deuxième chapitre, de découvrir aussi que c'est un temps de repos. Voilà, vous avez bien travaillé depuis hier soir, bien été studieux depuis ce matin. Voilà. Eh bien, on continue la route, voilà, on ne fait pas du surplace, mais la modalité de la poursuite de cette route, de cette plongée dans le cœur de Jésus, se fait voilà, d'une autre manière. C'est en fait le chapitre le plus facile voilà, et le plus profond. Le plus facile parce que, voilà, après avoir bien fait travailler voilà, nos ménages, réfléchir, chercher par réfléchir par nous-mêmes, eh bien, nous entrons sur une autre modalité qui est plus contemplative. Et l'enjeu voilà, de ce deuxième chapitre, qui cherche à nous mettre au contact direct avec le Seigneur, eh bien, c'est sur une modalité plutôt contemplative. Voilà. Et il y a un, non pas un laisser-faire, voilà, mais une remise à Dieu, voilà, et que j'espère pouvoir vous introduire, et en particulier grâce au soutien de notre chapelle, la Colombière, que vous avez peut-être pu déjà parcourir, visiter. Non ? Alors, si vous y êtes déjà allé, eh bien, vous aurez l'occasion d'y retourner déjà ce soir. Voilà. Et pour les autres, bah, du coup, j'espère que ça attirera aussi votre attention sur comment cette chapelle... Elle est pleinement au service de cette encyclique pour nous faire comprendre ce que le pape cherche à nous faire comprendre, à faire comprendre à toute l'Église. Avant de venir, vous l'aviez déjà lu, cette encyclique. Donc, non, vous avez osé venir sans l'avoir lu. Très bien, très bien. Vous verrez donc, un peu plus loin, que le pape, évoquant l'histoire de la réception du Sacré-Cœur, fait particulièrement référence à, fait référence à plusieurs traditions et en particulier à celle de la Compagnie de Jésus à travers Claude la Colombière, l'accompagnateur de Marguerite Marie. Et il dit explicitement, dans je crois que c'est le chapitre 3 ou 4, nous avons vu comment saint Claude la Colombière avait relié l'expérience spirituelle de sainte Marguerite Marie à la proposition des exercices spirituels. Alors, pour ceux qui ne sont pas familiers avec la spiritualité ignatienne de la Compagnie de Jésus, d'Ignace de Loyola, les exercices spirituels sont ce petit ouvrage qu'Ignace a composé, qui est plutôt le fruit de l'expérience de Dieu d'Ignace, qui va le conduire à devenir cette personnalité que l'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire le fondateur de la Compagnie de Jésus et donc de tout ce dynamisme apostolique aussi qui suivra. Il écrit dans un, voilà, dans un recueil qu'il appellera « Exercice spirituel », toute une pédagogie pour permettre à d'autres d'entrer dans une expérience directe du Seigneur, à partir, structuré, d'un cheminement à travers, en particulier, les évangiles, la vie de Jésus. Il appellera ça donc les exercices spirituels, un livre que je ne vous recommande pas à acheter, même si vous le trouvez dans les bonnes librairies, parce que si vous l'achetez, non pas que vous commettez un péché véniel, mais simplement, vous verrez que c'est illisible. C'est illisible. Pourquoi ? Parce que c'est écrit déjà dans un langage qui n'est plus le nôtre, le langage du XVIe siècle. Et puis surtout, c'est un écrit plutôt destiné à ceux qui vont accompagner les retraitants qui vont chercher à rentrer dans cette expérience personnelle de Dieu. Et donc, il donne des indications pour aider l'accompagnateur, comme on va l'appeler, comme on va les appeler, voilà, l'accompagnateur, pour être attentif, voilà, au cheminement du retraitant et lui permettre de vivre cette rencontre particulière, singulière, avec le Seigneur. Et dans ce cheminement, voilà, donc qui peut être de durée variable, mais qui est structuré dans les termes d'Ignace en 4 semaines, on pourrait dire 4 thématiques, voilà, fondamentales, il nous fait travailler avec toutes nos ressources propres, et il va appeler ça des exercices de méditation. J'investis mon intelligence, ma réflexion. C'est ce que vous avez fait, en fait, là, depuis hier soir et surtout depuis ce matin. Voilà. Vous avez cherché à comprendre, à vous laisser interroger et tout ça, et vous avez... Enfin, je pense que voilà, c'est ça qui a été sollicité. Voilà, votre intelligence. Mais il n'y a pas que cette modalité pour entrer, voilà, dans un chemin de rencontre avec le Seigneur. Ignace présente une autre modalité, plus simple en apparence, mais surtout plus profonde, qui est celle de la contemplation. La contemplation où je me mets en présence des scènes d'évangile de la vie de Jésus et progressivement, je découvre que cette histoire que je regarde, que je lis, que je contemple, elle n'est pas une histoire extérieure à moi, mais elle vient aussi éclairer ma propre histoire. Je rentre dans l'histoire de l'Évangile, je découvre que l'histoire de l'Évangile vient à ma rencontre. Mais dans un contact, vous voyez, beaucoup plus, on pourrait dire, apaisé ou tranquille, voilà. Non pas pour s'endormir, et j'espère ne pas vous endormir, mais où il y a, on pourrait se dire, comme un lâcher-prise pour un laisser-faire, mais en profondeur. Un peu comme, vous voyez, avec les beaux jours qui sont venus ces derniers temps, nous avons plaisir à reprendre, à ressortir à l'extérieur, à s'exposer au soleil, et plus vous vous exposez au soleil, quand vous rentrez, eh ben ça, vous ne pouvez pas le masquer. Quand vous rentrez chez vous, voilà. Ah ben Léon, t'as passé du temps à l'extérieur, toi. T'en as bien profité. Voilà. Ton visage est devenu rayonnant. Voilà. Parce que vous êtes laissé impressionner, voilà. Laisser le soleil, voilà, s'imprimer sur vos corps, de manière toute simple, mais avec une conséquence sensible. Eh bien, ce deuxième chapitre de l'encyclique, elle est sur cette modalité. Le pape François, vous ne l'ignorez pas, ou il serait temps de ne plus l'ignorer, voilà, vous savez qu'il a été jésuite. Voilà. Donc il a été façonné par la tradition ignatienne. Voilà. C'est un peu sa matrice intérieure, c'est ce qu'il a structuré. Eh bien, voilà qu'il nous introduit sur ce chemin-là, voilà, sans faire de nous, et voilà, il ne vous oblige pas à devenir, heureusement, des ignatiens. Voilà. Mais voilà, il y a quelque chose de cette pédagogie qu'il adopte dans cette manière de nous conduire sur le chemin du cœur de Jésus. Nous avons vu comment Saint-Claude de la Colombière avait relié l'expérience spirituelle de Marguerite Marie à la proposition des exercices spirituels. Voilà. Eh bien, en fait, il nous fait rentrer dans cette expérience. Je crois que c'est donc avec, vous voyez, cette attitude-là qu'il faut aborder ce deuxième chapitre. Et donc, je reviens à notre chapelle, voilà, qui a été construite ici donc, pour honorer Claude la Colombière. Eh bien, nous avons découvert, il n'y a pas très très longtemps, voilà, on n'avait pas d'héritage dans les archives de la construction de la chapelle, d'explications plus précises, mais on a bien compris que cette chapelle est structurée, elle aussi, selon les exercices spirituels, la pédagogie des exercices spirituels. Et nous allons pouvoir découvrir que, voilà, pour éclairer ce deuxième chapitre, voilà, il y a comme tout un tas d'illustrations, voilà, qui viennent nous aider à rentrer dans cette contemplation. Alors c'est ce que je vous propose voilà, de vous guider ce soir, dans éveiller votre attention dans ce que vous pourrez faire peut-être plus profondément, soit ce soir pendant la veillée ou d'ici votre départ de Parel Monial. Et pour les auditeurs voilà, qui écouteront eh bien, ce que je vous dis par podcast ou par... j'espère que ça suscitera pour vous le désir de venir à Parel Monial pour vous rendre compte précisément voilà, et lire en lieu et place voilà, ce deuxième chapitre. Ça va ? Alors, reprenons le fil de ce deuxième chapitre. Le cœur du Christ, symbole du centre personnel d'où jaillit son amour pour nous et le noyau vivant de la première annonce. Là se trouve l'origine de notre foi, la source qui donne vie aux convictions chrétiennes. Eh bien, vous voyez que quand vous entrez dans cette chapelle, la première chose précisément qui vient saisir notre regard, c'est précisément ce qui est au centre, mais au fond, et dont vous découvrirez rapidement, vous comprenez de quoi elle nous parle, de Jésus avec son cœur rayonnant. Son amour jaillit du centre de son cœur, l'origine de notre foi. Origine, et voyez, orientation, qui vient comme nous saisir. Et c'est ce que je vous invite à faire, c'est vous laisser saisir, vous voyez, vous laisser rejoindre et capter. On est tellement cérébral dans notre culture occidentale que tout de suite, on cherche à réfléchir, alors qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ceci, qu'est-ce que cela. Mais d'abord, laisse-toi saisir, laisse-toi rejoindre, laisse ton esprit un peu tranquille et laisse les autres aspects qui composent aussi ton être, parce que tu n'es pas qu'un esprit, tu n'es pas qu'un cerveau, et heureusement, tu es aussi un corps. Et vous savez comment, dans le premier chapitre, le pape a attiré notre attention sur le fait que, eh bien, quel est le premier moyen voilà, pour commencer notre réflexion, je ne sais pas si tu l'as évoqué, Guénaël, c'est la chair de poule. Le frémissement voilà, face à un événement, le retentissement dans notre chair, c'est la première étape qui va ensuite nous permettre de réfléchir. Laisse-toi saisir, laisse-toi rejoindre. Découvrir que le Seigneur, voilà, il est le premier à venir à ta rencontre. Et vous voyez que c'est l'expérience sensible que je vous souhaite lorsque vous entrerez ou rentrerez dans la chapelle La Colombière. Le pape poursuit, le Christ n'a pas voulu beaucoup nous expliquer son amour pour nous, mais il l'a manifesté. Manifesté par ses gestes. Et c'est le sous-titre qui arrive tout de suite, des gestes qui reflètent le cœur. Et vous voyez que le terme, il n'est pas anodin. On pourrait passer rapidement dessus, des gestes qui reflètent le cœur. Reflètent, réfléchir, le reflet. Vous voyez, on est dans une approche particulièrement sensible, ce qui n'est pas de la sensiblerie, voilà. Mais c'est par le sensible être touché, voilà. Se laisser toucher. On n'est pas dans un discours théorique, on est dans l'enjeu d'une rencontre, voilà, d'une expérience personnelle de rencontre avec le Seigneur. Et vous savez que dans une rencontre que vous pouvez faire avec des personnes qui vous sont chères, vous êtes déjà rempli, voilà, quand vous voyez, voilà, quand vous avez un rendez-vous avec une personne qui est chère à vos yeux, dès que vous la voyez paraître, voilà, vous êtes rempli de sa présence. Vous commencez, vous êtes, voilà, avant même de vous dire quoi que ce soit. Je suis heureux que tu sois là. Je suis heureux d'être avec toi. Se laisser saisir. Entrer dans l'expérience d'une présence pour moi. Le Seigneur vient pour moi. Ce que le pape poursuit tout de suite dans le paragraphe suivant, selon l'Évangile, Jésus est venu chez les siens. et il ne nous traite pas comme des étrangers. Nous sommes les siens. Et voyez du coup cette proximité immédiate qui s'éprouve, qui frémit par nos sens, eh bien, vous pouvez le découvrir tout de suite, dès l'entrée dans notre chapelle, par les vitraux qui vous accueillent au plus proche. Et notamment un d'entre eux, qui est sur votre gauche, alors ce soir ça va être un peu plus difficile puisqu'il fera un peu nuit, vous pourrez revenir en journée, c'est Jésus qui bénit les petits-enfants. Avec, vous voyez, ce verset qui est retenu, « Laissez venir à moi ». Venir à moi, c'est l'invitation qui vient nous saisir. Et vous voyez, nous sommes touchés, nous sommes rejoints par la lumière, voilà, qui réfléchit ce visage, ce geste, cette tendresse, cette tendresse. Nous sommes les siens. Il nous considère comme un bien propre sur lequel il veille avec soin, avec affection. Il nous traite comme les siens. Comme les siens. Déjà, dans le premier chapitre, vous avez pu entendre l'insistance sur la dimension relationnelle que le pape insiste. La dévotion au cœur de Jésus est une dimension profondément relationnelle, une dynamique relationnelle. On n'est pas dans quelque chose, voilà, la contemplation d'un objet théorique ou voilà, serait-ce le cœur. Mais le cœur, ça nous renvoie sur la personne entière de Jésus. Le cœur est un symbole. C'est pas un organe physiologique que l'on va contempler. C'est un symbole qui passe par le sensible, mais pour nous conduire à la personne totale, profonde de Jésus. Et vous voyez que du coup, on a à redécouvrir pour nous aussi dans notre culture, encore une fois, hyper cérébrale, où aussi la dimension symbolique, on a pu la laisser un peu s'éteindre ou un peu tomber en désuétude, ou laisser simplement dans des expressions dites symboliques. Ah, tu sais, voilà, bah, je te donne cette pièce, c'est mon euro symbolique pour te dire ma participation. Et vous voyez que dans ces expressions-là, un truc symbolique, c'est plutôt faute de mieux. Bon, j'aurais pu faire plus ou j'aimerais faire plus, mais bon, bah, pour l'instant, contente-toi de cela. Voilà. C'est symbolique. Voilà. Non, non. Symbolique, dans l'enracinement antique et biblique, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. C'est un contact sensible avec une réalité effectivement sensible. Au départ, à cette époque-là, dans la période antique, c'était des poteries cassées pour rappeler une alliance qui avait été engagée. Le papier était cher, donc on cassait plutôt des poteries. T'en gardes une partie, moi j'en garde une autre. Et quand je regarde ma partie à moi, je me souviens qu'il existe une autre partie que je ne vois plus, mais qui me rappelle l'engagement que nous avons pris l'un avec l'autre. Le cœur de Jésus, symbole de l'amour de Dieu, par un contact sensible, si pauvre soit-il, si petit soit-il, est là pour nous conduire dans l'immensité du mystère de Dieu. Vous voyez, c'est ça la dynamique du cœur de Jésus. Et une dynamique, vous voyez, donc relationnelle, relationnelle. Ce qui est précisément le cœur de la dynamique, de la pédagogie, des exercices spirituels qui cherchent à développer, voilà, à éveiller et à nous faire entrer dans une dynamique de relation, de rencontre et de dialogue simple, amical, voilà, mais direct avec le Seigneur. Lui vers moi, moi vers lui. Il le dit lui-même, poursuit le pape. Poursuit l'encyclique, je ne vous appelle plus serviteur, il nous propose l'appartenance des amis. L'appartenance des amis. Venez à moi. Vous êtes mes amis. Dimension que vous découvrirez aussi très forte avec précisément l'expérience de Marguerite Marie et de Claude Lacolombière. C'est sur la modalité d'une amitié avec le Seigneur qu'ils vont l'un et l'autre découvrir ce trésor et pouvoir le transmettre. Alors nous sommes obligés d'avancer, voilà. Cela est manifeste lorsque nous le voyons à l'œuvre, voilà. Et donc l'enjeu, c'est apprendre à contempler le Seigneur, regarder le Seigneur à l'œuvre. Il est toujours à la recherche, toujours proche, toujours ouvert à la rencontre. Alors, pour un familier de Claude la Colombière, tout de suite, cette expression, ça doit faire tilt dans votre cœur. Il est toujours, toujours, toujours. Ça nous renvoie explicitement, c'est pas mentionné dans l'encyclique, mais à une prière de Saint Claude, son acte d'offrande, où précisément, il parle exactement en ces termes du Seigneur. Son cœur est encore, et autant qu'il le peut être, dans les mêmes sentiments pour aujourd'hui, et surtout, toujours brûlant d'amour pour les hommes, toujours ouvert pour répandre sur eux toutes ses grâces et bénédictions, toujours touché de nos maux, toujours disposé à nous recevoir et à nous servir d'asile. Vous voyez que donc dans les propos, il y a les propos explicites de l'encyclique sur Claude la Colombière, mais en fait, il y a d'autres propos implicites dans la manière de nous parler, de nous mettre sur le chemin du cœur de Jésus. Toujours à la recherche, toujours proche, toujours ouvert à la rencontre, et bien précisément, le pape va prendre appui sur la rencontre de Jésus avec la Samaritaine. Surprise, nous la découvrons dans notre chapelle. Sur un des petits, non pas chapiteaux, ce que l'on appelle des corbeaux, c'est-à-dire ce qui est accroché sur les murs où se trouvent les vitraux, vous découvrirez précisément cette scène de la rencontre de Jésus avec la Samaritaine. Un Jésus simplement assis sur la margelle du puits, dialoguant avec... Voilà. Et l'on regarde, et l'on peut découvrir, et on peut se laisser toucher par les gestes, les attitudes de cette femme en réflexion sur ce que Jésus lui dit. Il pointe avec la main droite le chiffre 5, et elle réfléchit, et elle va en tirer, elle va se laisser rejoindre et remettre en mouvement, réintégrer dans la société humaine de son temps, où elle avait été marginalisée pour toutes sortes de raisons. Avec Jésus, se laissant rejoindre par lui, quelque chose d'un chemin de vie qui se manifeste. Un peu plus loin, poursuite toujours dans ce même paragraphe, nous le voyons au milieu de la nuit, rencontrer Nicodème. Nous l'admirons se laisser laver les pieds sans honte par une prostituée. Hop, juste à côté, vous voyez la rencontre de Jésus chez Simon le pharisien et la femme pécheresse qui essuie les pieds de Jésus avec ses cheveux. Et vous voyez dans les visages la manière de vivre cette scène. Il y en a un qui est complètement fermé, obtus, c'est Simon le pharisien, il fait la gueule. Jésus le pointe du doigt, mais le geste profond, de profond respect de cette femme dont on ne voit pas le visage, mais dont on voit simplement les cheveux. La Samaritaine, la pécheresse, cette pécheresse pardonnée, ça nous parle de la miséricorde du Seigneur. C'est précisément la thématique que choisit le pape en choisissant ces scènes de contemplation de l'Évangile. Cette miséricorde, cette attitude miséricordieuse qui est cette venue, vous savez, la miséricorde, parfois on a eu tendance à la réduire comme simplement, temps de miséricorde, soirée miséricorde, ça veut dire soirée réconciliation. Sauf que miséricorde, c'est plus large que la réconciliation. La réconciliation, c'est l'aboutissement, mais la miséricorde, elle commence bien avant. C'est la mise en mouvement de Dieu lui-même pour venir nous rechercher, nous rejoindre. Ce que le cardinal que lisait le pape quand il a été élu en 2013, Youm, Flute, Il le pointe dès le lendemain de son élection, voilà, sur l'esplanade, je dirais, pendant la première audience publique, il dit, voilà, je suis en train de lire un livre qui me fait beaucoup de bien, d'un de mes cardinaux. On comprendra après que lorsqu'il fait un compliment en public d'un de ses cardinaux, c'est assez plutôt rare, et donc c'est précieux à entendre. Je lis un livre sur la miséricorde du Seigneur. Comme je voudrais que l'Église soit pétrie de cette expérience de la miséricorde. Bien, ce cardinal, voilà, dont le nom voilà, reste dans le silence pour son humilité, voilà. Sur la miséricorde, justement, il repointe l'expérience initiale, c'est très intéressant, voilà, sur où apparaît la miséricorde de Dieu, vous le savez, avec Moïse au buisson ardent. C'est là la révélation première et profonde de la miséricorde de Dieu, que Dieu est miséricorde. J'ai vu la misère de mon peuple, j'ai vu et je suis descendu, dit Dieu, avant même d'envoyer Moïse. Et donc, ce cardinal anonyme souligne, voilà, la miséricorde, c'est ça, voilà, c'est ça. Et il le dit, c'est inscrit dans son nom, lorsque Moïse lui dira, mais alors quel nom dirais-je ensuite quand tu m'envoies pour authentifier quand même celui qui m'envoie et tout ça, quel sera le nom de Dieu ? Celui qui est, celui qui sera, celui qui... Et le cardinal pointe, c'est difficile à traduire cette expression, et on ne sait pas trop très bien la traduire. L'hébreu est très difficile à traduire explicitement. Mais ce qu'il y a à retenir justement dans ce terme quasiment intraduisible, c'est que Dieu manifeste que son nom est mouvement, dynamique, on ne peut pas le figer. Il est dans ce mouvement de sortie de lui-même pour venir à notre rencontre. Et il souligne, c'est ça la miséricorde. La miséricorde, c'est cette mise en mouvement de Dieu, par Dieu, vers nous, jusqu'à ce qu'il nous retrouve. Ce que Faustine comprendra quelques siècles plus tard, elle qui n'a pas fait d'études de théologie, qui n'est pas du tout cardinale, qui est simplement petite religieuse dans son couvent de Cracovie ou à côté de Cracovie, et voilà, bénéficiant simplement de son catéchisme très élémentaire, voilà, de son enfance, elle voit le Seigneur se manifester à elle et dira-t-elle, contemplant son cœur rayonnant, voilà, ce rayon qui jaillit du cœur de Jésus, descend, coule, vient la miséricorde de Dieu. Et la miséricorde de Dieu, ce n'est pas seulement un attribut qui serait accessoire ou secondaire, ou comme on le faisait dans le catéchisme de l'époque, Dieu est tout-puissant, il est un esprit, il est blablabla, il est ceci, il est cela, et juste en fin de parcours, en fin de liste, Dieu est miséricordieux. Voilà, il est miséricorde. Vous voyez que c'était vraiment bas de peloton. Hein. Elle, Faustine, elle dit, ah mais la miséricorde, ce n'est pas le bas du classement, c'est l'attribut fondamental de Dieu. Et ça passe par le cœur de Jésus. Combien je souhaite que notre Église, pour être ajustée à affronter les temps qui sont les nôtres, dit le pape en 2013, combien je souhaite qu'elle soit plongée dans cette expérience de la miséricorde. Vous voyez, alors qu'on était au début de son pontificat, il ne nous parlait pas du cœur de Jésus, et pourtant il nous mettait sur le chemin du cœur de Jésus. Alors qu'aujourd'hui, nous sommes certainement, peut-être pas pour les heures qui viennent, mais quand même dans les mois en tout cas, on est quand même plutôt proche de la fin de son pontificat. Vous voyez, on est avec ce document sur le cœur de Jésus et que nous contemplons, voilà, précisément dans ses accroches. Toujours ouvert, voilà, toujours proche, toujours ouvert à la rencontre. Le Seigneur est proximité, compassion et tendresse. Lorsqu'il guérit une personne, il préfère s'en approcher. Il préfère s'en approcher. Jésus étendit la main et le toucha, lui toucha la main, leur toucha les yeux. Regardez les manières qu'a de Jésus de toucher. Voilà. Et laissez-vous toucher par sa manière de toucher. Le Seigneur connaît la belle science des caresses. La tendresse de Dieu ne nous aime pas avec des mots, il s'approche de nous est proche de nous, il nous donne son amour avec toute la tendresse possible. Et la seule citation, vous pourrez faire attention, dans ce chapitre, alors que dans les autres chapitres, elles sont nombreuses, il n'y a qu'une seule citation dans le chapitre 2. Le pape se cite lui-même. Cette citation, en fait, qu'est-elle ? Eh bien, elle est une référence à sa première homélie de pontificat, 2013, précisément lors de la fête du Sacré-Cœur, 7 juin 2013, où il développait cette science difficile de l'amour et cette science de la caresse. Alors pour nous, occidentaux, ça nous semblait aussi étrange de voir un pape parler de la science de la caresse, avec aussi toutes les ambiguïtés peut-être que ça peut représenter. Bah, mais le pape, il est latino-américain, il a une autre culture, il a une sensibilité, voilà, une affectivité qui est un peu plus, ajustée, ou en tout cas tactile, effectivement. Et alors il explique dans la science de la caresse du Seigneur, les deux piliers de l'amour, c'est proximité et tendresse. Et il prend appui précisément sur le bon pasteur, qui connaît chacune de ses brebis personnellement et qui les porte sur ses épaules. Surprise, à nouveau, dans un des petits corbeaux de la chapelle, vous pourrez découvrir précisément le bon pasteur, entouré du troupeau, de ses brebis, et portant l'une d'entre elles sur ses épaules. Au final, à tour de rôle, c'est chacune des brebis qui passe sur les épaules. Le bon pasteur, entouré dans des lieux menaçants, où vous pouvez voir sur la gauche les mercenaires au couteau aiguisé entre les dents, aux doigts allongés et avec les euros trébuchants ou les dollars trébuchants pour acheter et corrompre. Et de l'autre côté, vous pourrez voir, si c'est bien éclairé, ou sinon vous venez avec une torche, les loups voraces qui cherchent à attraper, les loups aux dents longues et aiguisées, qui cherchent à attraper les brebis qui trouvent refuge dans les mains du Seigneur. La science de la caresse, c'est en fait celle du bon pasteur qui connaît ses brebis et les prend pour les porter sur ses épaules. Il s'agit d'un amour fort, poursuivait le pape à ce moment-là. Proximité et tendresse nous font voir la force de l'amour de Dieu. Ce n'est pas quelque chose de mièvre, c'est quelque chose de fort, de fort. Alors, nous continuons, voyez, cette route et cette pédagogie, nous nous laissons progressivement façonner. Et plus nous nous laissons façonner, plus se transmet quelque chose en profondeur, au-delà même de ce dont vous pouvez concevoir. C'est plutôt la modalité plutôt du sachet de thé ou de l'infusion de 4 heures. Ben justement, il est 17h30 et c'est le temps de la tisane. Et je laisse tremper mon petit carré de tisane, et plus je le laisse tremper, plus il infuse, il diffuse. Quand vous êtes avec des amis, des personnes qui vous sont chères, vous aimez leur présence, vous aimez passer du temps ensemble. Avez-vous remarqué qu'au bout d'un certain temps, plus vous passez du temps ensemble, plus il y a une sorte d'infusion réciproque ? Tiens, il y a des goûts, des saveurs, des couleurs que mon ami aime et je découvre qu'il m'en a ouvert l'attention, mais non seulement ouvert l'attention, quelque temps plus tard, je me surprends à aimer, tiens, telle musique, tel aspect, telle vue, telle... Vous n'avez pas fait cette expérience-là ? Et vous voyez que ça passe de manière délicate, discrète, mais réelle, quelque chose infuse. Plus nous rentrons dans cette contemplation du Seigneur et nous nous laissons faire, plus des choses de la manière de faire et la manière d'être de Jésus diffusent, infusent dans notre être. Vous voyez ? Alors le pape poursuit, alors qu'il nous est difficile de faire confiance, parce que, il y a l'épreuve de la vie. Nous entendons cette parole du Seigneur qui continue à nous rejoindre. et nous dit « Confiance, lève-toi !» Et à nouveau, vous avez ce vitrail de la guérison du fils de la veuve de Naïm. « Confiance, lève-toi !» Ou bien l'épisode de la tempête apaisée. À Pierre qui perd confiance, Jésus tend la main, le saisit en lui disant « Pourquoi as-tu douté ? N'aie pas peur !» Laisse-le s'approcher de toi, laisse-le se mettre à côté de toi. Nous pouvons douter de beaucoup de monde, mais pas de lui. Et là encore, réminiscence d'un familier de Paray-le-Monial, c'est d'entendre à travers ces mots l'expérience de Claude, sa confiance radicale qu'il va mettre progressivement dans le Seigneur. Ma confiance, c'est ma confiance, au sens de ma confiance, c'est toi et toi seul. Et aucune de mes capacités personnelles. Et je fais ce transfert. Je ne m'appuie plus sur moi-même, quand bien même je pourrais avoir des raisons ou des qualités qui pourraient me permettre de m'appuyer sur mes propres ressources, je choisis de m'appuyer sur toi. Le Seigneur, voilà, vient à nous, il ne s'arrête pas à cause de tes péchés. Rappelle-toi qu'à cause de nombreux pécheurs, il s'était mis à table avec Jésus et que Jésus n'a pas été scandalisé par aucun d'eux. Il reste au milieu d'eux. Pourtant, il ne va pas approuver des conduites erronées, mais par sa présence va conduire à des transformations. Rappelez-vous l'expérience de Zachée. Quelle est la recommandation, la demande de Jésus ? Zachée, descends vite. Il faut que tu changes de vie parce que ta vie est pourrie, tu es complètement corrompu et tout ça. Non. Descends vite, il faut que je demeure chez toi. C'est tout. La demande de Jésus, elle est là. Il faut que je demeure chez toi. Et vous voyez, et nous voyons ensuite, l'évangile nous fait voir les conséquences. Zachée va dire, s'il y a des choses un peu tordues, voilà que je vais agir un peu autrement. Et vous voyez que c'est d'abord par la rencontre de Jésus. Cette rencontre, vous voyez qu'il n'est pas avec Zachée, mais avec Matthieu aussi, sur un de nos chapiteaux, qui précisément vous accueille quand vous entrez dans la chapelle. C'est le premier chapiteau que vous pouvez voir avec précision. L'interpellation de Jésus. Hey, « Hé, mon petit bonhomme, lève-toi, viens et suis-moi. » Matthieu, qui se lève de sa table, et vous voyez qu'avec, voilà, dans ces visages qui peuvent paraître enfantins, un peu naïfs, néanmoins, il y a plein de détails pour celui qui accepte de regarder, de prendre le temps de regarder. Il pourra se laisser interpeller par la présence de deux clés. Deux clés. Pourquoi deux clés ? Vous voyez ? Deux clés. Une petite clé dans le tiroir caisse, là où Matthieu mettait le grisby, qu'il ne fallait pas toucher. C'est mon grisby. Et une grosse clé qui pendouille sans servir à rien. Et vous voyez que sur ce chemin-là, si nous nous laissons toucher, impressionner par ce que nous voyons, eh bien vous voyez qu'il y a cette question profonde aussi de Jésus qui vient nous rejoindre. Où est le trésor de ton cœur ? Où est ton cœur ? Où est ton véritable trésor ? Dans ton tiroir caisse ? Ou bien sais-tu que tu as un autre trésor plus précieux ? Ah, où ça, Seigneur ? Mais dans ton cœur. Elle n'est pas loin, cette parole que je te donne aujourd'hui pour que tu la cherches et que tu la mettes en application. Elle est où ? Tout près de toi, sur ta bouche, dans ton cœur. Reprends le chemin de ton cœur. Vous voyez, on est bien dans la conséquence du premier chapitre, mais avec une expérience à la fois simple, mais extrêmement profonde. Ce même Jésus attend aujourd'hui que tu lui donnes la possibilité d'éclairer ton existence. Il vient éclairer ton existence. Vous, vous verrez que je vis et vous, vous vivrez. Voilà. Il trouve toujours un moyen de se manifester dans ta vie pour que tu puisses le rencontrer. Jusque même dans la mort, puisque Lazare va être interpellé. Lazare, sors de ce tombeau. Lazare que vous voyez sortir, voilà, au geste souverain de Jésus. Lazare, sort de ce tombeau. Des gestes donc de Jésus qui reflètent le cœur, qui nous font voir ce qui est invisible apparemment, voilà, ce qui anime le cœur de Jésus. Dans la deuxième partie de ce chapitre, cela se poursuit avec le regard. Dans les exercices spirituels, précisément, dont je vous faisais référence au début, voilà, Ignace attire notre attention sur voilà, « je mets en œuvre mon attention pour considérer les gestes, voir les personnages, voilà, les yeux, voilà, entendre ce qu'ils peuvent dire, les oreilles. Mes sens sont sollicités pour entrer dans la profondeur du mystère de Dieu. Voilà, mes sens sont sollicités. » Alors, l'Évangile nous raconte qu'un homme riche vint à lui, à Jésus, rempli d'idéaux, mais manquant de force pour changer de vie. Alors Jésus fixa son regard, et par son regard, il touche cet homme. Lorsqu'il t'appelle, poursuit l'encyclique, te convoque pour une mission, il commence par te regarder, il pénètre au plus profond de ton être, il perçoit et connaît tout ce qui est en toi, il pose son regard sur toi. À nouveau, vous voyez que c'est précisément l'appel de Matthieu qui est pointé. Mais aussi la pêche miraculeuse. Comme il cheminait sur le bord de la mer de Galilée, il vit deux frères. En avançant plus loin, il vit deux autres frères. Il vit le regard de Jésus, le simple regard de Jésus. Se laisser encore une fois rejoindre par ce regard éclairé. Alors vous voyez que l'encyclique, elle n'a pas vocation à être exhaustive, elle nous met en route, elle nous met en chemin, vous voyez, elle nous fait démarrer, mais à nous de continuer la route. De nombreux textes de l'Évangile nous montrent comment Jésus est attentif aux personnes, à toi maintenant de regarder, de te mettre en contemplation de l'Évangile et de te laisser faire, éclairé par elle. En tant qu'être humain, il avait appris toute cette manière d'être de Jésus, nous découvrons, en tant qu'être humain, Jésus l'avait appris de sa mère, qui conservait avec soin toutes ces choses, les méditant elle-même en son cœur, lui appris avec Saint Joseph, ses parents, Marie et Joseph, dès son enfance, à être lui-même attentif. Oui, nous sommes invités à rentrer dans cette pédagogie des gestes de Jésus que lui-même a reçu en obéissance humaine profonde, pleinement homme. Il l'a appris de ses parents, Marie et Joseph. Et nous le voyons, c'est dans le deuxième chapiteau aussi qui est le plus accessible quand vous entrez dans la chapelle. Jésus, qui se laisse instruire par Joseph, à la table, à l'établi de travail, sous le regard attentif de la maman juive, Marie, aux travaux ménagers, qui plie le linge ou qui raccommode le linge, les chaussettes, mais qui garde les yeux extrêmement fixés, attentifs sur son fils. Jésus reçoit de Marie et de Joseph ces attitudes profondément humaines, mais qu'il nous réveille. Il nous rappelle, si tu veux être pleinement homme et femme, soigne ces capacités aussi, qui ne sont pas uniquement tes capacités cérébrales. Et on termine alors avec la dernière partie de ce court chapitre, mais extrêmement profond, les paroles de Jésus, entendre les paroles de Jésus. Nous avons dans les Écritures sa parole, toujours vivante et actuelle. Mais Jésus nous parle intérieurement, il nous appelle pour nous conduire au meilleur endroit. Ce lieu, le meilleur, c'est son cœur. Et vous voyez qu'au final, pérégrinant dans la chapelle, vous laissant façonner aussi par ces supports de contemplation, non pas de méditation, mais de contemplation, insensiblement mais sûrement, vous vous rapprochez de cette mosaïque qui nous faisait signe dès le départ. Jésus nous appelle pour nous conduire au meilleur endroit, c'est son cœur. Et voyez que plus vous approchez du fond de cette chapelle, plus vous découvrez que Jésus est entouré d'une multitude de personnages, voilà, comme attiré, mis en attraction vers son cœur, ou de son cœur qui descend vers le vôtre. Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Le repos, le repos. Vous voyez, c'est un chemin, donc, où il faut rentrer paisiblement, et plus je rentre paisiblement, voilà, non pas pour m'endormir, même si le psaume dit, vous savez, le Seigneur comble son bien-aimé quand il dort, voilà. C'est pas une raison pour s'endormir à tout bout de champ, voilà. Mais voilà, il y a ce cheminement tranquille et paisible, voilà, qui me fait découvrir que je suis appelé et que ma demeure, ma place, j'ai une place, moi aussi, dans le cœur de Jésus. Ce n'est pas réservé à une élite ou à quelques privilégiés. Quand vous êtes au pied de cette mosaïque, vous voyez qu'il y a Marguerite Marie à gauche, Claude la Colombière à droite, mais pas que. Il y en a plein d'autres, identifiables et non identifiables. C'est visible du côté des sœurs. Où vous voyez que certaines sœurs, on les voit, elles sont présentes, mais aucun visage, tellement elles sont cachées par leur voile. Chacun a une place, et vous pouvez le ressentir physiquement. J'ai une place. Voilà. Le Seigneur m'appelle à découvrir cette place qu'il a réservée pour moi sur son cœur. Je vous quitte, voilà, pour aller vous préparer une place. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures, de nombreuses places. Voilà. La maison du Père, ce n'est pas quelque chose d'étriqué. Voilà. Il y a de la place pour chacun. Wow, ça, vous voyez, c'est la bonne nouvelle, donc, que le deuxième chapitre, voilà, vient infuser, voilà, pour nous, voilà, refléter du cœur de Jésus. Et vous verrez que, voilà, cela se termine, voilà, avec ce dernier paragraphe. Ce qui précède pourrait ressembler à du romantisme religieux, c'est de la belle histoire. Voilà. Or, rien n'est plus sérieux et décisif. On trouve cela, et cela trouve sa plus haute expression, dans le Christ cloué sur la croix, qui est la parole d'amour la plus éloquente. Et bien précisément, quand vous êtes conduit au pied de la mosaïque, quand vous vous retournerez dans la chapelle, qu'est-ce que vous découvrirez ? Eh bien, décidément, ça va bloquer. Juste. Voilà. Quand vous retournez, qu'est-ce que vous voyez ? L'ultime vitrail, précisément, juste au-dessus de la porte sous laquelle vous êtes entré, mais qui était invisible à votre regard, mais qui se dévoile quand vous êtes au pied de la mosaïque, le côté de Jésus transpercé. C'est le paragraphe 46, le tout dernier paragraphe. La parole d'amour la plus éloquente. Il ne s'agit pas d'une coquille vide, d'un pur sentiment, d'une évasion spirituelle. Il s'agit d'amour. Il s'agit d'amour. Alors, reprenant saint Paul, « Il m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. » Telle était la plus grande conviction de Paul, se savoir aimer, voilà, se laisser rejoindre par cet amour, se laisser façonner par cet amour. C'est tout l'enjeu donc de ce deuxième chapitre, qui alors annonce la suite. Après avoir contemplé le Christ, ce que ses gestes et ses paroles laissent entrevoir de son cœur, rappelons maintenant comment l'Église réfléchit sur le saint mystère du cœur du Seigneur. Alors vous dites tout de suite, ah, ça y est, maintenant la pause est terminée, on va recommencer à travailler du cerveau. Voilà, comment on réfléchit ? Non ! Je pense que réfléchi, c'est clair avec le premier mot du deuxième chapitre, des gestes qui reflète le cœur. On est dans un réfléchissement, c'est-à-dire que maintenant, on va contempler comment cela s'imprime dans l'histoire de l'Église, dans l'histoire de la tradition spirituelle. Vous voyez, on est quand même dans cette modalité de la réflexion, voilà, ce reflet qui se transmet au final de cœur en cœur, de génération en génération, jusqu'à éclairer nos générations. Et bien voilà de quoi vous mettre, j'espère, en chemin pour vous laisser faire par ce deuxième chapitre, à la fois simple, mais extrêmement profond et décisif, surtout décisif pour la suite, pour comprendre la suite. La suite, ce n'est que des reflets à recevoir pour découvrir finalement comment je suis appelé, nous sommes appelés à devenir, à être les reflets pour aujourd'hui de cet amour de Dieu pour l'ensemble de la création. Amen.